France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Israël veut contrôler toute la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou ne cache plus ses intentions alors que de nouveaux bombardements ont fait aujourd'hui une cinquantaine de morts dans l'enclave. Témoignage dans un instant. Donald Trump téléphone à Vladimir Poutine pour convaincre le président russe d'accepter un cessez-le-feu. Les premières discussions russo-ukrainiennes la semaine dernière en Turquie n'ont rien donné. Le Royaume-Uni et l'Union européenne signe un nouveau partenariat stratégique pour tourner la page du Brexit. Des avancées sur le plan économique, mais toujours des blocages sur deux sujets sensibles, les frontières et la défense. Choose France fait le plein, 20 milliards d'euros d'investissements étrangers annoncés au sommet à Versailles, mais les projets industriels ne semblent pas majoritaires dans ces investissements. C'est désormais officiel dans la bouche de Benjamin Netanyahou. Israël veut prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien l'a affirmé en annonçant une nouvelle intensification des opérations militaires de l'État hébreu dans l'enclave. Les bombardements dévastateurs continuent, au moins 52 morts aujourd'hui selon les secours palestiniens. Et comme pour joindre le geste à la parole, l'armée a ordonné à la mi-journée l'évacuation de l'une des zones les plus peuplées de Gaza, dans l'ouest de l'enclave. Thibault Lefebvre a recueilli des témoignages sur place.
C'est l'ordre de déplacement le plus important émis par l'armée israélienne depuis la reprise des combats il y a un peu plus de deux mois. Des dizaines de milliers d'habitants de la grande ville de Khan Younes, c'est au centre de l'enclave, comme Youssef, sont concernés. Depuis plusieurs semaines maintenant, il vit au nord de cette zone.
Tout le monde a évacué, sauf nous. On a resté 10 personnes dans une maison. J'ai déplacé plus de 10 fois. Je vais y aller où ? Chaque déplacement, je paye tout. J'en peux plus, mon frère. Je suis vraiment très, très fatigué. Épuisé.
Ce week-end, l'armée israélienne a envoyé des ordres d'évacuation et massivement bombardé le nord de Gaza, poussant des dizaines de milliers de déplacés sur les routes. Le journaliste palestinien Rami Al-Maghari a rencontré Salah, c'est un habitant de Jabalia.
On a été jetés dans les rues, on dort dehors et autour de nous il n'y a que les bombardements et le chaos. Vous êtes assis tranquillement et tout à coup les missiles déferlent sur vous sans avertissement.
L'armée israélienne demande à tous ces déplacés de se diriger vers le littoral d'Al-Mawassi, une zone considérée comme humanitaire, mais qu'Israël n'a cessé de bombarder.
Thibault Lefebvre à Jérusalem a noté que Benjamin Netanyahou a aussi annoncé une reprise très partielle de l'aide humanitaire à Gaza, après plus de deux mois de blocus au total. Une trentaine de camions sont prévus à partir de lundi prochain. Faut-il parler d'un coup de fil à un ami ? En tout cas, Donald Trump est actuellement au téléphone avec Vladimir Poutine. Le président américain veut mettre fin au bain de sang en Ukraine. Les pourparlers russo-ukrainiens n'ont rien donné la semaine dernière à Istanbul. Donald Trump espère convaincre son homologue russe d'accepter un cessez-le-feu durable. On fait le point avec Claude Guibal aux États-Unis.
Un entretien dont il ne filtre rien, évidemment, pour l'instant. C'est le vice-président J.D. Vance, ce matin, qui a précisé la position de la Maison-Blanche, demandé au président russe s'il était sérieux, s'il était sincère. Ce sont ses mots au sujet de la paix en Ukraine. J.D. Vance qui a également souligné que les États-Unis n'allaient pas, je cite, « toujours tourner en rond dans leur tentative de parvenir à une résolution ». On sent dans l'entourage du président américain une forme d'agacement face à l'intransigeance de Vladimir Poutine. Pas sûr pour autant que Donald Trump soit prêt à le désavouer publiquement. Alors face à Moscou, le président pourrait en fait adopter la stratégie du « good cop, bad cop », jouer la carte du gentil flic en laissant, entre guillemets, le sale boulot au Congrès. Ce levier de pression du Congrès, c'est le plan qui est porté par le sénateur républicain Lindsey Graham, qui est un fidèle allié de Donald Trump et qui est porteur d'un projet de loi contre la Russie, des sanctions qui incluent des droits de douane de 500% sur les marchandises importées de pays qui achètent du gaz ou du pétrole russe. Et son lobbying actif porte ses fruits avec plus de 70 parrains pour ce projet de loi, républicains et démocrates, de quoi exclure une obstruction parlementaire mais aussi un éventuel veto présidentiel. J'y suis pour rien, c'est le Congrès qui fait pression, un des messages que Donald Trump pourrait être en train de faire passer à Vladimir Poutine.
En Russie, en tout cas, la chasse aux ONG continue. Le parquet général russe déclare Amnesty International indésirable. Concrètement, cela signifie qu'Amnesty ne peut plus exercer ses ses activités en Russie. Le siège londonien de l'organisation est le centre de préparation de projets russophobes mondiaux, affirme le parquet russe qui parle de projets financés par les complices du régime de Kiev. Fin de citation. Un témoignage rare à présent dans ce journal, celui d'un Chinois pris au piège des trafiquants d'êtres humains en Birmanie. Des groupes mafieux qui contraignent encore aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes à participer à des arnaques en ligne. Les victimes se retrouvent en situation de quasi-esclavage, battues et forcées à travailler dans des zones de non-droit situées en territoire birman. Xu Bochun a vécu cet enfer pendant plusieurs mois avant de réussir à s'enfuir, malgré les risques encourus sur un sujet très sensible. En Chine. Il a raconté son calvaire à notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot.
Xu Bochun nous a donné un rendez-vous discret cet après-midi dans un grand parc de Shanghai. Malgré les pressions de la police chinoise, l'homme de 39 ans éprouve un incroyable besoin de raconter cet épisode douloureux de sa vie. En 2023, ce petit acteur répond à une offre d'emploi pour un second rôle. Mais il n'y aura pas de tournage. À la place, Bochun est emmené de force au nord de la Birmanie, où il est contraint de travailler pour des arnaques en ligne.
Chaque jour, les trafiquants venaient dans la maison pour choisir leur main-d'œuvre. Ils étaient masqués parce qu'il y avait une odeur de sang humain sur place. Ils nous frappaient avec des bâtons aux fesses et aux jambes, au moins 10 coups chaque jour. J'ai même vu des gens se faire tirer dessus pour avoir résisté. Je vivais au 4e étage et travaillais au 7e. On avait chacun 4 iPhones sur lesquels on devait gérer 20 comptes Instagram afin d'arnaquer les gens avec de faux investissements dans les crypto-monnaies.
Bochun a bien pensé à s'échapper. Mais impossible et surtout trop risqué.
Ceux qui tentaient de s'échapper étaient vite rattrapés. Et j'ai vu la punition. On leur enlevait un rein. Les mercenaires montraient ensuite les cicatrices aux autres pour les dissuader.
Un matin, le comédien réussit à transmettre son adresse à un ami d'enfance. Le sauvetage durera plusieurs mois au prix d'énormes sacrifices pour sa famille qui doit payer une rançon de 140 000 euros. C'est terrible, raconte-t-il. J'ai survécu, mais des milliers d'autres restent piégés en Birmanie. C'est pour cela qu'il a décidé de parler, malgré le caractère très sensible de ce sujet pour le régime de Pékin, en raison de l'implication de nombreux ressortissants chinois.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Sébastien Berriot, le correspondant de France Culture à Pékin. 5 ans après le Brexit, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique. Le Premier ministre britannique Keir Starmer évoque une nouvelle ère dans les relations entre Londres et Bruxelles. Ce partenariat est très large puisqu'il englobe plusieurs domaines clés comme l'économie, la défense et la sécurité. On retrouve à Londres notre envoyé spécial Frédéric Seyss. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Frédéric, ce partenariat devrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux parties.
Oui, c'était l'une des exigences du gouvernement britannique poussée par les entreprises qui se désolent depuis des années des contrôles tatillons de l'Union européenne. Eh bien, selon l'accord conclu ici à Londres, les normes seront harmonisées, en particulier sur les produits alimentaires, ce qui va réduire largement la paperasse, comme le résume Keir Starmer. Le Premier ministre veut y voir le début d'une nouvelle ère après le Brexit.
Ce que nous avons accompli aujourd'hui, cela consiste à aller de l'avant et non pas à regarder derrière. Nous tournons une page, nous ouvrons une nouvelle ère avec des coopérations plus étroites avec l'Europe.
Coopération plus étroite aussi sur le dossier très sensible de la pêche. Le gouvernement britannique a dû lâcher du lest. Il accepte de reconduire l'accord actuel sur le partage des zones de pêche pour les 12 prochaines années. Demande insistante de la France, grande fureur ce soir des pêcheurs britanniques et de l'opposition de droite qui qualifie Keir Starmer de traître.
En revanche, Frédéric, cet accord est beaucoup plus frileux sur deux sujets sensibles, les frontières et la défense.
Oui, alors certes, Bruxelles et Londres ont conclu un partenariat de défense et de sécurité pour renforcer la coopération militaire, plus d'échanges d'informations, plus d'exercices en commun. Mais il y avait une ligne rouge, notamment posée par la France. Hors de question que les Britanniques profitent des milliards d'euros débloqués par l'Union européenne pour développer les industries militaires. Alors, le texte reste vague, tout comme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
En fait, c'est une approche en deux temps. La première condition, c'était la signature d'un pacte de défense. Voilà qui est fait. Ça ouvre la porte à ce que le Royaume-Uni participe au programme européen. Mais il faudra une nouvelle négociation pour en préciser les détails et donc un nouvel accord. En tout cas, c'est l'objectif que nous poursuivons ensemble.
Bref, vous l'avez compris, on s'appelle et on en reparle. Autre sujet très sensible, l'ouverture des frontières pour les étudiants, projet voulu par les Européens. Eh bien, le Premier ministre britannique a fermé la porte, Keir Starmer, sous pression de la droite et de l'extrême droite, qui l'accuse déjà d'aller trop loin, trop vite dans ses retrouvailles post-Brexit.
Merci Frédéric Seyss depuis Londres. Et pendant que le Royaume-Uni et l'Union européenne relancent leurs relations, la France, elle, cherche à séduire les investisseurs étrangers. C'est l'objet du sommet Choose France, huitième du nom, qui se tient en ce moment sous les dorures du château de Versailles. Les chiffres annoncés sont impressionnants. 20 milliards d'euros de nouveaux projets, 5 milliards de plus que lors du septième sommet l'an dernier. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Stanislas.
De quel projet parle-t-on ? S'agit-il de nouvelles usines pour réindustrialiser la France ?
Parmi les projets d'ampleur annoncés figure la confirmation par le croisiériste italo-suisse MSC d'une commande de 2 navires au chantier de Saint-Nazaire pour 3,5 milliards d'euros. Les chantiers de l'Atlantique, qui ont déjà construit 19 des 23 paquebots de la compagnie, vont atteindre avec ces 2 nouvelles commandes les 4000 emplois avec une pleine activité jusqu'en 2030. L'allemand Daimler Truck investira 92 millions d'euros dans son usine d'autobus électriques de ligne en Barrois dans la Meuse. Le constructeur allemand promet la consolidation et la création de 600 emplois directs. Le chinois Windrow Technologies, qui construit des camions électriques, va investir, lui, 175 millions d'euros pour créer sa plus vaste usine européenne. Ensuite, l'entreprise américaine CIRC, pionnière du recyclage chimique textile, va investir 450 millions d'euros pour sa première usine de dimension mondiale à Saint-Avold en Moselle, avec 200 emplois à la clé. Alors, à la suite du sommet de l'intelligence artificielle en février dernier, Stanislas, eh bien, les investissements maintenant se confirment. Une vingtaine de milliards d'euros pour des entrepôts et des data centers. Et MGX, le fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis et BPI France, Mistral et Nvidia, annoncent un investissement donc de 8,5 milliards d'euros avec une première tranche qui serait opérationnelle en 2028 d'un campus IA ouvert associant data centers, calcul de haute performance et éducation et recherche.
Et quel est le bilan, Annabelle, des investissements annoncés depuis la première édition ?
Alors, depuis 2018, depuis le premier Choose France, 178 annonces de projets ont été faites pour 47 milliards d'euros. Sur ces 178 projets, seules une dizaine ont été abandonnées, selon l'Elysée. Après, si l'on regarde en détail, la plupart de ces projets sont des extensions d'usines déjà existantes. On recense 39 projets complètement nouveaux, surtout des centres de R&D, des centres de données. Et selon le magazine L'Usine Nouvelle, eh bien aujourd'hui, 7 ans après, seule une quinzaine de ces projets sont aujourd'hui opérationnels.
Annabelle Grelier, merci. Alors, si la France se présente en paradis des investisseurs étrangers, Bruxelles est moins optimiste sur nos perspectives de croissance. La Commission européenne a publié ce matin ses prévisions pour la zone euro en 2025 et 2026. Des nouveaux chiffres qui prennent en compte la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Résultat, une hausse du PIB revue à la baisse, 0,9% au lieu de 1,3% prévu initialement pour cette zone euro. Diane Berger, bonsoir.
Bonsoir.
S'agissant de la croissance française, la Commission européenne est plus pessimiste que le gouvernement.
Oui, elle propose le chiffre de plus 0,6% en 2025. Comme le reste de l'Europe, la France va subir les conséquences des taxes douanières mises en place par la Maison-Blanche. La Commission européenne pointe aussi les conséquences de l'incertitude politique au niveau national. Résultat, avec la réduction des flux commerciaux et des bénéfices et la frilosité des investisseurs, la Commission avance un chiffre moins bon que celui donné depuis un mois par le ministre français de l'économie, Éric Lombard, qui a encore martelé ce matin chez nos confrères de RTL, que la croissance française serait de plus 0,7% en 2025. L'écart est faible, certes, entre les deux prévisions, mais il faut aussi ajouter des difficultés annoncées sur le marché de l'emploi. Et surtout, ce ralentissement économique va avoir un impact direct sur les recettes fiscales de l'État. Selon les calculs de Bruxelles, le déficit français ne va donc pas se réduire autant que promis. Il devrait même augmenter légèrement en 2026, revenir à 5,7% du PIB. La France, qui ne va pas être la seule à souffrir, d'après les prévisions de l'Union européenne, l'Allemagne sera très touchée. À l'automne dernier, avant le début de la guerre commerciale, Bruxelles lui prédisait pour 2025 une petite hausse de 0,7% du PIB après 2 années de récession. Selon les nouveaux calculs publiés ce matin, la croissance allemande affichera finalement un zéro pointé.
Explication signée Diane Berger. Une croissance molle qui pourrait bien aggraver les inégalités en France. Et justement, la Croix-Rouge a fait de la lutte contre la fracture sociale son mot d'ordre pour sa 91e collecte nationale. Collecte qui a débuté hier et qui se poursuit jusqu'à dimanche prochain, 25 mai. Près de 79 000 volontaires sillonnent les rues pour recueillir des dons. Cette collecte, Mathilde Laboureur, est fondamentale pour la Croix-Rouge, à la fois pour son budget et son rayonnement.
Les dons des particuliers, c'est l'histoire de la Croix-Rouge. Une base financière de 153 millions d'euros en 2023, par exemple. L'ONG peut s'appuyer sur des donateurs fidèles, cette ressource reste stable. C'est dire si cette semaine de mobilisation est particulièrement importante, car sur le terrain, les demandes augmentent. Guillaume Meunier, directeur développement des territoires de la Croix-Rouge, explique.
Ce qu'on constate surtout, c'est une hausse des besoins, notamment pour les actions liées à la grande précarité, pour des dispositifs d'aide alimentaire, d'aide vestimentaire par exemple, mais aussi autour des actions quotidiennes sur les enjeux d'isolement social, de précarité d'accès aux soins.
Selon un sondage initié par la Croix-Rouge l'année dernière, ce sont près de 44% des Français qui s'estiment vivre dans une zone isolée. Les dons de la quête vont donc permettre de financer des actions de proximité.
On met en place depuis déjà plusieurs années des actions, ce qu'on appelle d'aller vers, qui permettent d'aller au-devant des populations isolées. Ça peut être par exemple un bus dentaire dans le Gers, mais ça peut être aussi des logiques de food truck solidaire pour l'accès à l'aide alimentaire dans l'Essonne. Voilà, on met en place beaucoup d'actions qui permettent de se rapprocher dans le dernier kilomètre, notamment pour les personnes les plus vulnérables.
Pour cette présence accrue dans les territoires, la Croix-Rouge peut aussi compter sur une augmentation de ses bénévoles, avec ces dernières années un engagement significatif des moins de 30 ans. Ils représenteront un quart des volontaires qui vous tendront la main cette semaine.
Reportage signé Mathilde Laboureur et Maë Alliot. Partons à Cannes à présent pour notre rendez-vous quotidien consacré au 78e festival. Un festival en phase avec l'actualité, comme le montrent trois films projetés aujourd'hui. Trois films qui nous parlent de Gaza, de l'Égypte et d'un Proche-Orient revisité par Hollywood. On retrouve à Cannes Antoine Guillot, producteur de Plan Large. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Stanislas.
Alors, il y a tout d'abord le dernier Wes Anderson, The Phoenician Scheme, le projet phénicien avec une myriade de stars.
Oui, effectivement, Stanislas, comme toujours chez Wes Anderson, vous me direz, puisque ce casting munificent se résume parfois à une apparition l'espace d'un plan, comme un Bill Murray dans le rôle fugace, rien moins que de Dieu, le temps d'un bref intermède métaphysique en noir et blanc. Rien de très nouveau donc chez le dandy exilé d'Amérique, si ce n'est cette fois d'aborder le genre du thriller. On n'a jamais autant saigné et décédé dans un film de Wes Anderson, et de se confronter à l'orientalisme cinématographique, comme ceux d'Alexandre Korda, qui donne son patronyme au mania de l'industrie que joue Benicio del Toro, ou du Casablanca de Michael Curtis, directement cité avec une scène de cabaret avec Mathieu Amalric en Humphrey Bogart d'occasion, jusqu'à de grotesques terroristes arabes très conformes aux caricatures que le cinéma a toujours fait des militants palestiniens. Le tout se passant dans une région convoitée par le milliardaire, répondant au nom fictif de Phénicia, sachant que l'antique Phénicie correspondait au Liban actuel. Pour des images plus directes de ce qui se passe en ce moment dans la région, il fallait plutôt aller voir du côté des Aigles de la République, des images tout aussi fictive en un sens, puisque tout ce qui est censé se passer au Caire a été tourné à l'étranger. Son réalisateur Tariq Saleh est interdit de séjour dans son pays d'origine, depuis qu'avec le Caire confidentiel et la conspiration du Caire, il a jeté un regard extrêmement critique et acéré sur la police, la politique et la religion d'État égyptienne. Dans ce nouveau thriller, lui aussi, c'est à la macabre comédie du pouvoir qu'il s'attaque en confrontant deux pharaons, une star du cinéma égyptien et celui qu'il se retrouve obligé d'interpréter dans un film à sa gloire, le Raïs al-Sissi. Pas sûr que ce grand film sur les compromissions inévitables pour qui veut garder son rang dans un régime autoritaire permette à son réalisateur de remettre de sitôt les pieds en Égypte.
Antoine, il y a aussi ce film très attendu sur le drame palestinien, Once Upon a Time in Gaza, Il était une fois à Gaza.
Oui, Stanislas, et le titre est à prendre au pied de la lettre. Le nouveau film des frères Nasser, les réalisateurs Gazaoui, de la comédie dégradée et de la romance Gaza mon amour, raconte, entre film noir et western spaghetti, ce qu'était Gaza en 2007, l'année où le Hamas fut élu et où Israël a commencé son blocus. Même si, nécessité oblige, il a lui aussi été tourné hors de Gaza, en Jordanie. Il met des images et des visages, surtout, sur ce qui n'est aujourd'hui plus que ruine, et rappelle que la guerre n'y a pas commencé le soir du 7 octobre 2023.
Antoine Guillot, en direct du Festival de Cannes. On vous retrouve demain soir à 18h pour les nouvelles du festival. Le temps demain, la dégradation orageuse se confirme dans le sud-ouest avec 11 départements en vigilance orange, de l'Ariège à la Dordogne. Un temps pluvieux également dans le Massif central et les orages pourraient remonter jusqu'au nord-est. Ailleurs, un ciel plus calme, souvent en variable. Demain matin, il fera entre 8 et 15 degrés du nord au sud. Les températures maximales iront de 18 à 26 degrés selon les régions. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Grégory Wallon.